Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode consacré aux questions posées par la santé en prison. Le droit des détenus à la continuité des soins signifie que malgré la détention, chaque détenu doit pouvoir accéder à des soins de même qualité que dans un contexte ordinaire. Pourtant, dans les faits, le fonctionnement des prisons rend l'accès aux soins complexe. En effet, la mission de sécurité assurée par les surveillants pénitentiaires ne peut pas avoir les mêmes visées que la mission des soignants. Ce fonctionnement complexe ne décourage pas cependant les soignants qui s'engagent dans cette pratique à part. Pour établir une relation de soins de qualité, les soignants doivent s'adapter à la grande vulnérabilité que vivent les détenus qu'ils rencontrent. Soumis à des conditions d'emprisonnement qui dégradent leur santé, peu enclins à partager de manière spontanée certaines difficultés, et oui, le soin des détenus ne peut pas ou ne doit pas faire l'économie d'une relation de confiance dans laquelle le soignant se met à l'écoute de la personne soignée. Alors soigner les détenus, est-ce que ça revient finalement pas à soigner tout court, car les contraintes liées à la prison ne doivent pas affecter le soin et sa qualité? Le soin, aussi complexe soit-il à demander et à pratiquer en prison, n'en reste pas moins un soin dans toute sa dimension humaine. Alors justement, peut-il y avoir une cohérence à demander aux soignants de soigner les détenus comme tout le monde, alors que la justice les place en retrait de la société? Est-ce que la prison peut à la fois punir et soigner? Pour en parler, j'accueille Aude Lagarrigue.
Bonjour Flora. Alors je suis médecin responsable du service de médecine en milieu pénitentiaire au CHU de Toulouse, qui regroupe les unités sanitaires, c'est-à-dire les infirmeries, sur les différents établissements pénitentiaires de Seyss et Muret, et l'UHSI, qui est une unité d'hospitalisation pour les détenus au CHU de Toulouse à Rangueil.
Et j'accueille également Julia Schmitz.
Bonjour. Alors moi, je suis maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole et je suis spécialiste en droit pénitentiaire.
Je reprends donc cette discussion avec Aude Lagarrigue et Julia Schmitz. Lorsque des médicaments sont prescrits en prison, je me demande comment se passe l'accès des détenus à ces médicaments. C'est-à-dire, je suppose que ça fait partie du droit à la continuité de la qualité des soins, mais comment ces médicaments sont délivrés, comment les détenus y ont accès, comment ça se passe tout ça?
Alors, de manière un petit peu plus claire, le juge administratif a formulé un droit très précis pour la personne détenue qui est le droit de recevoir des traitements et des soins appropriés à son état de santé pour la personne détenue. Donc ça, c'est très clair, c'est un droit fondamental qui lui est reconnu. Le circuit des médicaments en prison, alors là c'est toujours pareil, en détention il y a les textes et puis il y a la pratique ensuite, la mise en œuvre. Les textes sont clairs, le code de la santé publique l'indique très clairement. Tout ce qui concerne la détermination, le choix du traitement médical, sa distribution, sa mise en œuvre pratique, relève de la seule compétence exclusive des services des personnels de santé. Ça c'est très clair. Mais, il y a toujours un petit mais... Un chef d'établissement qui a la police de l'ordre public au sein de son établissement peut s'opposer, par exemple, à ce qu'un détenu conserve dans sa cellule ces médicaments pour des raisons d'ordre et de sécurité, parce qu'il risquerait de les distribuer à d'autres détenus, parce qu'il risquerait de se suicider, par exemple, avec, etc.
Ah oui, d'accord.
Et surtout, les difficultés qu'ont les personnels soignants, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à se déplacer en détention. Pour se déplacer en détention, un personnel soignant doit être accompagné d'un personnel pénitentiaire. Et donc ça va entraver ce circuit du médicament. Et au sein de chaque établissement, la politique de distribution, clairement, elle varie. On a des établissements où le personnel infirmier va se déplacer quotidiennement dans les cellules pour distribuer à chaque patient son médicament. Dans d'autres établissements, c'est une distribution qui va avoir lieu une fois par semaine. Et puis, là encore, on a des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a pu constater que parfois, la distribution, elle était dans certains établissements où il y a pas suffisamment de personnel, ni soignant, ni pénitentiaire, où la distribution, elle peut être faite par des personnes détenues elles-mêmes qui travaillent au service général de l'établissement, ou par des surveillants eux-mêmes. Et là, c'est beaucoup plus problématique parce qu'on est dans un mélange des genres qui est illégal, qui est interdit, une confusion entre les missions pénitentiaires et les missions du soin. Ça m'évoque aussi certaines situations, certains établissements très particuliers, par exemple le centre pénitentiaire de Château-Thierry.
Oui.
Qui est un établissement qui a une vocation historique assez particulière, qui est d'accueillir des personnes condamnées qui ont des troubles psychotiques assez sévères, qui ont en fait des troubles du comportement qui les empêchent de s'adapter à des conditions normales de détention, mais qui ne vont pas pour autant relever d'une prise en charge hospitalière en psychiatrie.
D'accord.
Donc c'est une sorte d'entre-deux, ou bien qu'on va placer là parce qu'il n'y a pas de place en psychiatrie, que ce soit dans les UHSA, ou dans les hôpitaux de proximité. Et dans ce centre pénitentiaire, on a du personnel soignant, mais surtout un personnel pénitentiaire qui est expérimenté, qui est formé à l'accompagnement de ces personnes détenues qui ont des troubles psychiques parfois assez importants. Et dans ces visites, le contrôleur général a pu constater parfois, là aussi, une confusion des genres, des missions, avec des surveillants pénitentiaires qui distribuaient les médicaments, parfois du recours à la force pour pratiquer certaines injections à l'aide du personnel pénitentiaire. Donc voilà, des choses qui, en principe, sont interdites.
D'accord.
Oui, j'allais dire, le médicament en prison, il a quand même un statut particulier puisqu'il est gratuit et que c'est une monnaie d'échange qui est quand même largement répandue, tant pour les détenus qui sont consommateurs de médicaments à visée toxicomaniaque que pour ceux qui ne le sont pas mais qui l'utilisent pour se procurer d'autres produits. Et à la fois, on se retrouve sur certains établissements avec des populations qui sont des populations numériquement très importantes. Et donc, les pharmacies des USMP, des infirmeries, correspondent à une pharmacie de ville. Donc, avec une masse de médicaments à distribuer et gérer qui est extrêmement importante. Donc, c'est une organisation qui est très complexe techniquement, qui nécessite à la fois qu'on tienne compte des risques spécifiques et de la singularité des risques spécifiques de certains détenus vis-à-vis du médicament, donc le risque d'intoxication, de passage à l'acte auto-agressif, enfin, voilà. Et à la fois qu'on tienne compte aussi d'une autonomie qu'on veut préserver pour d'autres détenus dans la gestion de leur traitement, qui est un traitement chronique. Donc l'idée, c'est, malgré la masse et la quantité de médicaments à préparer et à distribuer, d'essayer d'être dans l'adaptation la plus fine aux besoins de chaque détenu pour que cet enjeu ne devienne pas un enjeu trop crucial et trop comment dire, utilisé à des fins qui ne seraient pas adaptées.
Oui, qui sortent du champ du soin directement.
Qui sortent complètement du champ du soin, avec parfois même des surveillants qui peuvent avoir connaissance de certaines pratiques, de certains échanges, de certains risques. Et bon, voilà, il faut aussi qu'on garde, nous, notre distance vis-à-vis de l'instrumentalisation que l'administration pénitentiaire peut avoir à faire de ce moment ou de ces modes de distribution. Nous, on a fait un important travail pour démontrer que finalement, c'est pas tant la fréquence de distribution du médicament qui est un facteur de risque de passage à l'acte pour des intoxications médicamenteuses volontaires. Donc, qu'on distribue en 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine, il y a le même nombre d'intoxications médicamenteuses.
Ah, d'accord.
Les détenus savent très bien stocker leur traitement prendre une fois quand ils le veulent. Donc, il faut aussi qu'on garde notre distance vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, puis c'est aussi un enjeu de pouvoir entre nous, à l'intérieur de l'établissement, pour dire ce champ, c'est un champ qui nous appartient et sur lequel on doit pouvoir garder notre précaré.
Julia, peut-être que vous pouvez nous préciser quels sont les différents établissements pénitentiaires, parce qu'apparemment, il y a une variété de types d'établissements.
Oui, effectivement, il y a prison et prison,
oui.
Comme on a l'habitude de le dire. Il y a une grande distinction qui est pénale, hein, qui repose sur la distinction entre les maisons d'arrêt et les centres de détention. Les maisons d'arrêt sont des établissements qui ont vocation à accueillir les personnes qui sont placées en détention provisoire, donc en principe sur de courtes durées, même si les détentions provisoires ont tendance à se rallonger aujourd'hui. Et puis les personnes qui sont condamnées à de très courtes peines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne des peines est très très basse en fait. C'est environ entre une moyenne de 6 mois, hein, pour les peines. Toutes les peines qui sont prononcées au-delà de 2 ans, les personnes doivent être en principe transférées dans des centres de détention. Et dans ces centres de détention, le principe de ce qu'on appelle l'encellulement individuel est beaucoup plus respecté. Donc ce sont des établissements qui souffrent beaucoup moins de la surpopulation, même si les chiffres ont tendance à remonter, puisque pour désengorger les maisons d'arrêt aujourd'hui, eh bien, les établissements pénitentiaires n'ont d'autre solution que de transférer des personnes, alors prévenues, mais surtout des personnes en très courte peine, dans des centres de détention. Ce qui a tendance à bouleverser du coup le fonctionnement de ces centres, qui en principe est un fonctionnement plutôt fluide et qui vient un petit peu apporter des dysfonctionnements pour le coup.
On entend souvent dire que la prison en France est trop confortable, que les détenus ont la vie facile, comme si la peine de prison n'était pas littéralement une peine dont on souffrirait. Et on se souvient récemment, en août 2022, des réactions très négatives qu'il y avait eues lorsque des Olympiades avaient été organisées à la prison de Fresnes. À cette occasion, des équipes formées par des détenus s'opposer à des équipes formées par des surveillants pénitentiaires. Et notamment, on a entendu parler d'une course de cartes qui a fait polémique. La réaction générale de désapprobation de la population à cette occasion amène à penser que pour le public, il paraît anormal de voir des détenus s'amuser. Il s'agit de mettre en relation la qualité de vie des détenus avec la peine de leur victime. À chaque fois, on entend ça, que lui fait du kart pendant que la famille est en deuil suite à son crime, par exemple. Et le tort qui a été causé devrait être compensé par la peine de prison en maintenant le détenu dans des conditions de vie moralement qu'on pourrait imaginer comme dégradées. Alors c'est là qu'on comprend qu'il y a une notion de souffrance. Il faudrait endurer sa peine. Et ça fait partie de notre présentation de ce qu'est la réparation par la peine de prison. Alors, s'il faut que les détenus souffrent, là, on revient à cette contradiction profonde. S'il faut que les détenus souffrent, les soigner, ça perd un peu son sens, non ? Enfin, de la vie de la société, c'est un petit peu bizarre.
Alors moi, ça me fait penser à... C'est ce qui a construit, je pense, la création de la prison en tant que peine moderne à partir de la Révolution française, où l'idée était à la fois d'humaniser la peine pénale, mais en même temps de garder cette souffrance, cette humiliation, cette diminution civile nécessaire à la peine. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la moindre éligibilité, c'est-à-dire l'idée que pour que la prison puisse être efficace, dissuasive, eh bien, elle doit fournir des conditions de vie nécessairement moins favorables, plus indignes que celles que l'on va trouver dans la couche la moins favorisée de la population. Cette doctrine, elle est extrêmement prégnante, extrêmement forte. Il y a quand même un mouvement inverse qui est en train de... Enfin, qui se forme hein, depuis quelques années, depuis qu'on voit plus clair aussi sur la prison, qu'il y a des regards, des contrôles, des rapports de visite du contrôleur général, il y a les visites des parlementaires désormais, des bâtonniers, etc. Donc c'est difficile de ne pas connaître la réalité carcérale quand même aujourd'hui dans notre société, même si je pense que tant qu'on n'a pas mis un pied dans une prison, on peut difficilement quand même se rendre compte de ce que c'est la vie carcérale et cet état de souffrance, hein, inévitable, surtout lorsqu'on est dans un établissement surpeuplé où on se trouve à 3, à 4 dans une cellule de 6 mètres carrés avec un sanitaire qui très souvent n'est pas isolé et ne fonctionne pas très bien. Il y a un mouvement qui se met en place depuis quelques années qui est cette idée de normalisation de la vie carcérale, c'est-à-dire de rapprocher autant que possible la vie en prison de la vie en société libre, même si l'aboutissement ne peut jamais être total. Et ça renvoie à une logique qui a été portée par le juge européen, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a eu un rôle assez fort ici pour censurer les États qui, et notamment la France, qui a très, très souvent été censurée, pour offrir des conditions indignes de détention. Que ce soit un état de surpopulation, un état d'insalubrité aussi des établissements, ou que ce soit une insuffisance dans l'accès aux soins et dans la délivrance des soins. Et aujourd'hui, la Cour de Strasbourg, elle oblige les États à faire des choses, à ce qu'on appelle des obligations positives. Les États sont obligés de fournir en matière de santé des choses de normalisation par rapport à la vie civile. Je pense par exemple à la protection des détenus contre le tabagisme passif, par exemple. L'administration pénitentiaire est désormais tenue, elle est obligée de lutter contre ça, de fournir un régime alimentaire adapté à une prescription médicale, alors qu'il y a une uniformisation nécessaire du régime alimentaire des personnes détenues. Donc, il y a des obligations positives qui sont là. Pour les obtenir, évidemment, ça nécessite des recours. Et un recours devant la Cour européenne, c'est des années de procédure avec un avocat ou des équipes d'avocats très armées. Donc, il y a toujours pareil. Il y a le droit, les principes, et puis il y a la réalité de la vie carcérale. Mais il y a toujours cette tension, et je crois que tant que la prison existera, cette tension existera entre cette moindre éligibilité de la personne détenue et cette quête de la normalisation de la vie en détention.
Oui, c'est vrai que cette tension, on la sent, et puis on la sent aussi sur les différents objectifs de la prison elle-même. Est-ce que finalement, l'objectif de la prison, c'est de mettre à l'abri la société du délinquant en finalement l'enfermant le temps d'une forme de réinsertion, ou est-ce que c'est juste une mission rétributive, une espèce de loi du talion? Et si forcément on est dans la loi du talion, le niveau de souffrance, si on estime qu'il doit être équivalent à celui des victimes, bon, c'est totalement... c'est ubuesque. En tout cas, ça conforte le soignant dans une forme de position... on est dans le mythe de Sisyphe, quoi. C'est-à-dire qu'on porte notre petite pierre à l'édifice en permanence, on essaie, on tente d'alléger cette souffrance, alors qui est à la fois psychique et physique. C'est vrai que je partage l'idée que tant qu'on n'est pas rentré en prison et tant qu'on n'a pas rencontré des détenus, on n'a pas d'idée de niveau de souffrance qui peut être atteint par certains détenus. Et surtout, tant qu'on n'a pas vu évoluer un individu en prison, on n'a pas d'idée de ses capacités de résilience et d'adaptation à ce qu'impose cet établissement. Avec des détenus qui, parfois, la consultation arrivant justement sur ce temps d'accueil, sont très inquiets et en grande difficulté, qu'on peut rencontrer quelques mois après, à avoir développé des capacités d'adaptation qui sont impressionnantes, et finalement s'être intégré dans ce lieu et avoir détourné certains codes qu'ils ont fait leur et à leur bénéfice. Donc c'est assez étonnant aussi de voir ça. Goffman l'a très bien décrit, cette capacité d'adaptation qui peut être intégrante à ce milieu ou au contraire désintégrante et amenée à une lutte permanente du détenu contre cette institution prison qui va être là pour le coup extrêmement néfaste. Donc en tant que soignant, il faut aussi qu'on prenne en considération cette capacité de résilience qu'ont les détenus dans ce milieu. Et puis, il y a après des choses qui sont factuelles, qui sont de l'ordre des brimades quotidiennes qu'a à subir un détenu et que la population ne connaît pas, mais qui sont quand même des choses pratico-pratiques qui mettent à mal le corps du détenu. Enfin, je veux dire, quand on ne peut marcher qu'une heure par jour dans une cour de promenade, en plein soleil, où il n'y a pas de banc, Ben là, on comprend très bien que certains détenus vont être en grande difficulté. Mmh. Et ça, c'est peut-être un des aspects qui, en tant que soignants, nous inquiète le plus. C'est que dans notre situation de Sisyphe, on voit apparaître aujourd'hui en détention des détenus de plus en plus âgés, qui peuvent parfois être incarcérés alors qu'ils ont plus de 90 ans, mmh. en primo incarcération. Mmh. Des détenus de plus en plus malades, et eux, pour le coup, leur capacité d'adaptation, bah, de fait, elles sont moindres, et la souffrance va être démultipliée. Mmh. Quand on est grand obèse, quand on est extrêmement handicapé, dormir sur un matelas au sol, mmh. ça ne revêt pas la même réalité que quand on est jeune et en très bon état général. Mmh. Donc, ce qui est aussi frappant, c'est les décisions d'incarcération pour des patients, parce que nous, on les considère comme patients, déjà très gravement malades mmh. et atteints de pathologies qui les amènent à subir de plein fouet une souffrance supérieure à celle qui est déjà normalement induite mmh. Par l'institution.
J'entends deux choses là. C'est d'un côté que d'abord, la vie en prison en France n'est pas confortable,
malgré non, c'est pas le Club Med,
cette idée qui peut être véhiculée par les médias. Et d'un autre côté, qu'une vocation importante de la prison, c'est quand même que les détenus vont devoir réintégrer la société. Et donc, il faut quand même leur donner les moyens de retrouver des relations sociales, être en bonne santé, enfin, en tout cas en santé acceptable, etc. Enfin, il y a cette double idée là dans vos propos. Et finalement, peut-être qu'il y a une contradiction profonde entre une détention qui viserait à déshumaniser les délinquants, qui viserait à effacer leur bon côté, et d'un autre côté, donc, la santé, qui a une vocation profondément humaniste et qui ne fait pas l'économie de la relation humaine. Donc, la cohabitation entre ces deux aspects, à travers vos propos, on entend à quel point elle est complexe. Est-ce que vous avez des idées est-ce qu'il y a des projets, des pistes d'amélioration pour tout ça?
Alors moi, si je peux me permettre, j'y vois pas autant d'opposition, parce que on pourrait considérer qu'il y a une schizophrénie institutionnelle entre le statut de patient, le statut de détenu qui est tout le temps en tension, en confrontation avec l'un qui primerait sur l'autre en fonction des moments, etc. Quand même, sur cette distinction entre l'enfermement et le soin, je pense qu'elle est un petit peu à relativiser quand même. Mm-hmm. Parce que, vous venez de le dire, la prison, elle n'est pas si déshumanisante que ça. Alors, il y a ces établissements surpeuplés avec des effectifs pénitentiaires qui sont vraiment très défaillants et où les situations sont très graves, hein, ça ne faut pas se le cacher. Mais il y a aussi des prisons, notamment les centres de détention, où ça fonctionne de manière plus sereine et où le lien du gardien et du gardé est parfois humain. Mmh. Et on peut même évoquer aujourd'hui une sorte de vase communicant, parce que le service hospitalier s'est introduit en détention depuis 1994. Ça fait déjà quelque temps, mais l'administration pénitentiaire, c'est une machine très lourde. Elle met du temps à bouger. Et aujourd'hui, il y a quand même quelques lignes qui bougent, notamment, je pense, à la formation du personnel pénitentiaire, qui est beaucoup plus attentive à ces questions de l'éthique, du soin. Moi, je suis responsable d'une formation continue à destination des personnels pénitentiaires et judiciaires. Et les questions qui reviennent, la notion qui revient beaucoup, c'est cette nouvelle idée de la garde et cette quête de sens qu'on a chez le personnel soignant, mais qu'on trouve aussi de plus en plus vers les nouveaux arrivants pénitentiaires, et qui disent, moi, mon métier, cette idée de la garde, j'y vois aussi une idée de protection, de recherche mm-hmm. du bien-être de la personne. Et certains, pas tous, hein, mais certains personnels pénitentiaires conçoivent aujourd'hui le temps de la détention comme un temps de la réparation, c'est-à-dire rattraper finalement une discontinuité sociale, voir des gens gens qui, par exemple, n'avaient jamais vu un dentiste de leur vie. Leur faciliter cet accès à l'éducation, à l'alphabétisation parfois, à la santé tout simplement, avec une, par exemple une affiliation à l'assurance sociale, hein, médicale, qui va arriver parfois pour certaines personnes en détention. Et avec des ruptures de soins qui vont être très graves à la sortie de détention, avec une difficulté à identifier un médecin référent, des personnes qui vont retourner dans la marginalité, la précarité, et qui vont se retrouver finalement sans soins. L'autre chose qu'on peut aussi peut-être noter, c'est que le système médical aujourd'hui, c'est connu, hein, ne va pas très bien dans la société civile. Je pense notamment au système de santé psychiatrique, avec des grosses défaillances aussi, et certains évoquent même une tendance à la carcéralisation de la santé mentale. Si on prend l'exemple des personnes détenues qui vont être prises en charge dans des structures hospitalières, très souvent, on constate une mise à l'isolement ou en contention qui va être quasi systématique. C'est pour la population détenue, mais aussi de plus en plus pour la population libre, que ces pratiques, qui ont d'ailleurs été récemment dénoncées, hein, sont de plus en plus courantes, parce qu'on est face à un système de santé qui est dépassé, et avec des moyens humains insuffisants, et des problématiques de santé dans la population générale qui sont de plus en plus grandes, notamment sur la santé mentale. Et il y a aujourd'hui aussi une chose qui est très grave à mon sens, c'est une confusion entre la peine de prison, d'enfermement, et le soin qui devient aussi un enfermement. Je pense par exemple à des décisions d'irresponsabilité pénale, mais qui vont être suivies d'une hospitalisation en soins psychiatriques qui peut parfois être plus longue. Oui. Que la peine que la personne aurait pu encourir, ou des décisions par exemple de rétention de sûreté. Mesures de rétention de sûreté, ce sont des mesures d'enfermement après avoir exécuté une peine de prison dans des centres médico-judiciaires, et qui vont pouvoir être prolongées de manière indéfinie. Donc on a une confusion, à mon sens, et une distinction qui est de moins en moins claire entre la prison et le soin.
Oui, je partage cet avis qu'en effet, finalement, la contradiction, elle est pas si profonde, et que les deux administrations et les deux missions cohabitent in fine pas si mal. Néanmoins, je pense que sur la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle que la décrit Foucault, l'objectif est quand même en permanence de dépouiller l'individu de tout ce qui fait de lui un être singulier, et que la maladie grave concourt elle aussi, par son expression, à aggraver cette capacité qu'a l'individu à affirmer qui il est, ce qu'il veut. Et donc quand on cumule prison et maladie grave, c'est là que les situations les plus dramatiques d'un point de vue éthique surviennent en prison. Avec des mesures d'aménagement de peine ou de remise en liberté qui sont extrêmement difficiles à obtenir. Alors, non pas toujours parce que les magistrats y sont opposés, j'allais dire la plupart du temps, non pas que les magistrats y soient opposés, mais que les détenus n'arrivent même pas à entrevoir la possibilité de s'extraire d'un milieu dans lequel ils vivent parfois depuis plus de 10 ans, dans lequel ils ont leurs meilleurs amis et leur seul repère individuel qui constitue leur singularité finalement, l'institution. Et leur lieu de vie, et devient leur paradigme personnel. Donc ça, en tant que soignant, ça vraiment, ça interroge, d'autant plus que le système de soins lui-même, avec la déliquescence qu'il connaît aujourd'hui, est incapable d'offrir parfois des places d'hébergement en EHPAD à ses patients un petit peu singuliers, voire dans des services qui pourtant ont l'habitude d'accueillir des patients en grande souffrance, qui sont mis à mal par l'idée d'accueillir un ancien détenu. Donc ça questionne vraiment le rôle du soignant comme étant, dans ce milieu-là spécifiquement, un garant de très fines marges d'autonomie qu'il peut mettre en œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reste aux patients détenus comme liberté? quelle partie de ses libertés il peut mettre en œuvre et comment il peut continuer à exprimer son individualité et ce qu'il souhaite. Alors, ça nous amène à essayer de mettre en œuvre, et avec l'aide de l'administration pénitentiaire qui est partie prenante, hein, des actions qui pourraient paraître au grand public complètement ubuesques. En détention, j'allais dire comme la séance de karting.
Ouais, ouais.
Enfin, pour nous, c'est tout à fait cohérent, mais je comprends que pour le grand public, ça puisse être... Et là, par exemple, on va essayer de développer des actions de socio-esthétique et sur l'UHSI, donc pour des détenus, qu'ils soient féminins ou masculins, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes en prison, 97% d'hommes en prison, donc... Et accepter que se réapproprier son corps dans toutes les dimensions, se réapproprier le soin qu'on peut apporter à son corps, c'est primordial pour se redéfinir en tant qu'individu, arriver à se prendre en charge sur le plan de sa santé, et d'autant plus qu'on est porteur d'une maladie grave. J'allais dire, en détention, il y a beaucoup d'autres pans de la vie privée qui sont annihilées, la sexualité en particulier, c'est un aspect important de la santé et qui est encore le grand tabou de la prise en charge, qu'elle soit médicale ou pénitentiaire en prison, alors que c'est un pan de la réinsertion compte tenu de la nature des peines ou des délits qui est primordial. Donc il y a beaucoup de travail pour qu'on fasse de ce lieu un lieu qui peut remplir ses missions. Et bon, bah, c'est aussi pour ça qu'on reste investi.
Bah, je vous remercie beaucoup toutes les deux, Aude Lagarrigue et Julia Schmitz.
Merci à vous.
Merci, ouais.
C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.